Deuxième partie de notre reportage sur les journées des métiers d'art à Sisteron.
Hier, vous avez entendu Olivier Logereau, tourneur, sculpteur sur bois de l'atelier des voiles ses formes, et Franck Perrard, l'adjoint à la culture de Sisteron. Nous poursuivons notre route à la rencontre de passeurs de mémoire par la transmission de leur savoir-faire. Les professionnels des métiers d'art sont des artistes, des magiciens tournés vers l'avenir et puisant leurs racines dans le compagnonnage, les arts décoratifs et les arts appliqués. En d'autres termes, ils œuvrent pour restaurer notre patrimoine autant que pour le réinventer. C'est le cas de Christophe Ponsard, restaurateur de fauteuils à Sisteron. Ce dernier dispose d'un atelier au cœur de la rue droite et ce week-end, il a partagé son savoir-faire en se prêtant au jeu des questions-réponses avec les visiteurs. Selon lui, les métiers parfois très anciens peuvent et doivent évoluer pour devenir ceux de demain. Dans notre reportage, nous écouterons également le maire de Sisteron, Daniel Spagnou, souligne que les budgets de la culture, tout comme ceux des sports, ne doivent en aucun cas être réduits en cette période difficile. Reportage Patrice Vernet.
Alors moi, je suis cellier tapissier, donc je restaure des fauteuils et en général là où on s'assoit. Donc des véhicules, aux motos, sièges de camion, voilà, enfin, en général, quoi. Ce sont deux métiers, le cellier, donc s'occupant plutôt de l'automobile, en fait, des véhicules des intérieurs, est encore assez, assez au goût du jour. Et donc le métier de tapissier s'arrête un petit peu progressivement et se féminise de plus en plus, voilà.
Quel est le cursus à suivre pour pouvoir être cellier restaurateur de fauteuils?
Alors, ben, il y a des CFA, en fait, des apprentissages, donc directement chez des patrons. Puis il y a quelques branches comme les compagnons qui ont leur propre formation et qui assurent sur le terrain, quoi.
Est-ce que l'avenir peut passer par des métiers anciens?
Je pense, oui, mais il suffit de suivre un petit peu, en fait, la technologie aussi à s'adapter au goût du jour aussi, et des raisons aussi commerciales, en fait, au niveau de coût de la vie, quoi. Donc essayer de s'adapter par la rapidité, donc au niveau de la technique et des matières premières, pour pouvoir gérer des tarifs abordables aussi.
À propos de tarifs, quelle est votre clientèle?
Alors ce sont la plupart du temps des collectionneurs pour ce qui est tout automobile, véhicule, et puis après plutôt des gens quand même assez aisés pour ce qui est du côté de la maison, voilà.
Là, vous êtes en train de réaliser un fauteuil, ça se passe comment?
Alors là, donc, je suis sur la phase de finition, on va dire, de décor, c'est-à-dire de la pose du tissu. On arrive au bout du chantier, on va dire. Donc il n'y a plus qu'à tendre le tissu, le mettre en place et poser les clous de finition.
Concrètement, votre travail sur ce fauteuil-là, il a consisté en quoi?
Alors là, ça a été une transformation en fait pour ce type de fauteuil. C'est un fauteuil donc d'inspiration Louis XV, à la sauce un petit peu provençale. C'est une fabrication des années 80, on va dire, voilà, d'usine. Donc il était fait avec des coussins qui étaient superposés dessus le châssis. Et j'ai essayé de faire une vision un peu plus traditionnel au niveau de Louis XV, mais j'ai décapé et changé un peu les codes couleurs au niveau du bois, voilà aussi. Donc apporter un petit peu de peinture, donc une peinture noire et chromée. Et donc j'y pose des tissus plutôt modernes, donc il va y avoir un sky à forme carrée, avec donc un tissu anti-tache pour la partie assise et dos, voilà aussi pour être un peu dans une utilisation contemporaine.
Quelle est la plus belle pièce que vous ayez eu à travailler?
Alors pour moi, où je me suis le plus amusé et stressé, on va dire, alors il y a eu deux ou trois chantiers, mais il y a eu donc une commande pour un coiffeur sur un sujet qui était Jules Verne, donc s'inspirer de l'univers de Jules Verne et de travailler dans ce sens. Donc une pièce plutôt artistique, mais la difficulté c'était qu'il y ait une utilisation professionnelle.
On vous retrouve sur Sisteron ?
On me retrouve, oui, dans la rue droite, avec les commerçants autour de moi et les artistes aussi.
Daniel Spagnou, Sisteron est une ville quand même à part.
Ben, c'est parce que c'est une ville historique, c'est quand même une ville qui est bâtie sur une ancienne ville gallo-romaine. Donc on a tout un passé et en même temps on a plein d'artisans d'art extraordinaires avec un centre de loisirs aussi qui a beaucoup fait pour maintenir l'art de notre terroir. Et puis en plus j'ai la chance d'avoir une équipe, la direction culturelle qui vraiment est motivée, un adjoint de la culture qui fait un excellent travail. Je crois que tout cela conjugué, eh bien on arrive à avoir des expositions comme celle d'aujourd'hui. Et je crois qu'à un moment justement où c'est très difficile de partout, eh bien la bêtise que font certains... c'est de couper les crédits de la culture. Au contraire, nous, cette année, dans le budget, ils sont augmentés. parce qu'il faut quand même que les gens qui souffrent déjà dans leur vie quotidienne puissent retrouver des expositions comme celle-là. Et il va y avoir tout au long de l'année des manifestations vraiment magnifiques dans tous les domaines. On va inaugurer début juillet ce magnifique musée qui vraiment va surprendre beaucoup, qui sera un des plus beaux de la région PACA, le musée archéologique de la maison d'Ornano. Voilà, on continue notre effort, on continue notre effort pour le sport aussi. Quand on les occupe dans la culture et dans le sport, eh bien, on forme la jeunesse de demain.
La ville de Sisteron, contrairement à bon nombre de villes, elle ne se défigure pas. Actuellement, on se pose beaucoup de questions sur la beauté des villes et l'enlaidissement. Hein, désolé, hein. Sisteron, c'est peut-être pas le cas.
Ah non, c'est pas le cas. C'est marrant de me poser cette question parce qu'il y a 48 heures, j'ai eu la visite d'amis qui sont venus me voir et qui ont voulu visiter la citadelle. Donc j'ai fait un saut avec eux. Et moi-même, je me surprends tout le temps. Je trouve tellement cette ville toujours aussi belle. Et ils ont eu cette réflexion. Ils m'ont dit, mais une ville comme ça, industrielle en plus, qui a des HLM, qui a une vie sociale à côté, et on a l'impression que la ville, vue de la citadelle, n'a pas bougé depuis 100 ans. Ben, j'ai dit oui, c'est parce qu'on veille, on a veillé, quelles que soient les municipalités, d'ailleurs depuis toujours, justement, à ne pas défigurer la ville. Et les immeubles modernes, on les a faits à l'extérieur, on ne les a pas faits au centre-ville. On a fait une politique depuis une vingtaine d'années qui coûte cher à la collectivité, mais on finance par exemple la réfection des toits pour obliger les propriétaires à refaire leurs toits avec les tuiles du pays. On subventionne les façades pour qu'on redonne les teintes de la Provence aux murs de nos maisons. Toute cette opération porte ses fruits aujourd'hui. Et je rappelle quand même cette phrase devenue célèbre quand je vais chercher un soir Jacques Chirac avant qu'il soit président de la République pour le mener à Sisteron, venir faire une réunion. Il me dit, on peut arrêter la voiture, on s'arrête au bord, même c'était dangereux. Et il me dit, mais ta ville, c'est une véritable crèche de Noël. Et c'était, je crois, en octobre quand il était venu. Ben oui, c'est une crèche de Noël toute l'année.
Comme quoi, quand on veut, on peut.
Oui, quand on veut, on peut, mais il faut aussi avoir les moyens. Et nous, on a eu la chance jusqu'à maintenant d'avoir les moyens, grâce, il faut le dire, à l'usine Sanofi. Mais malheureusement, les moyens, avec les prélèvements que nous font l'État, là, on vient de recevoir le chiffre définitif, c'est insupportable. Et donc, bon, on est obligé de faire des choix. Heureusement, que, comme j'ai dit tout à l'heure, on a préservé tout ce qui est culture, sport et jeunesse, et on coupe dans le reste.